بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، est-ce que vous entendez؟ Est-ce que vous entendez, barakallahu fikum?
On entend bien. Alhamdulillah.
Barakallahu fikum. Donc j'ai le plaisir, mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, de vous retrouver aujourd'hui, le samedi, le 16 du mois Shawwal de l'année 1447 de l'Hégire, correspondant au 4 avril 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble notre cours dans lequel nous lisons l'ouvrage très bénéfique et profitable de Cheikh Al-Allama Salih Al-Fawzan, qu'Allah le préserve et prolonge sa vie dans son obéissance. Et en plus, c'est un livre, c'est rare les ouvrages qui ont été résumés et qui ont été rédigés uniquement pour les femmes et qui sont concis et adaptés aux débutants. Il y a beaucoup de savants qui ont écrit des grands ouvrages, que ce soit dans le domaine de l'fiqh ou autre, que pour les femmes, dans lesquels ils ont regroupé les règles concernant les femmes. Mais l'avantage de ce livre, c'est qu'il est concis et qu'il traite les questions les plus importantes dont toutes les femmes ont besoin au quotidien, à commencer par les règles de la purification, les règles de la salate et les autres domaines qui sont d'une grande importance. Et comme d'habitude, j'essaye au début de chaque cours de rappeler quelques points qui aident à avoir une vie de couple heureuse et épanouie. Et parmi justement ces causes qui contribuent à croître l'amour entre les époux et de jouir ainsi d'une vie de couple épanouie, la première de ces causes, c'est bien évidemment taqwallah, la cause de tout bien. Et taqwallah, la piété ou la crainte d'Allah, et ça peut englober les deux, se traduit par l'accomplissement des ordres avec science et le délaissement des interdits avec science également, en espérant ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la chose la plus importante et le point le plus important qu'on doit travailler pour avoir une vie de couple stable et épanouie. Que chacun des époux doit travailler sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa piété. Et c'est pour ça que des salafs disaient « Ne marie ta fille qu'à un homme pieux. S'il l'aime, il sera très bon envers elle. Et s'il ne l'aime pas, il ne sera pas injuste envers elle. » Donc la piété, c'est parmi les principes les plus importants pour une vie de couple heureuse et épanouie. Également, de s'habituer à se comporter dans nos couples, les uns envers les autres, avec la bonté et la bienfaisance, et de ne pas se limiter aux obligations et aux devoirs et à l'équité. De donner plus que ce qui est obligatoire pour toi, à ton épouse, et elle de même. Et de ne pas demander d'elle, exiger d'elle, la totalité de tes droits. De te contenter de ce qu'elle peut offrir. Et ça, c'est parmi les signes du mari noble. il donne à son épouse plus que ses droits. Il se contente de moins d'elle, il se contente d'elle, de ce qui est inférieur à ses devoirs vis-à-vis de lui. Et ça, c'est dans leur relation, bien évidemment. Il ne rentre pas dans ça, bien évidemment, de fermer les yeux sur ses négligences dans la religion ou ses délaissements de ses obligations religieuses. Ça ne rentre pas. Lakin, si elle n'a pas préparé le repas au moment, au bon moment pour le mari, yani, c'est ces domaines-là qui sont concernés. Si elle n'a pas fait le ménage, si elle a négligé certaines obligations dans le foyer, yani, le bon mari, il va fermer les yeux sur ces choses-là. Là, qui ne c'est pas une invitation, ça c'est, il faut toujours comprendre que ça c'est le discours pour le mari. Là, qui pour la femme, on lui dit, donne à ton mari plus que ce que tu dois lui donner religieusement parlant. Ça, c'est le deuxième point. Et à ce sujet, Allah Azza wa Jalla dit « وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ » dans le sens approximatif, « N'oubliez pas d'être bienveillants les uns envers les autres. » Donc ça concerne les époux envers leurs épouses et les épouses envers leurs époux. Si ton époux a été négligent dans certaines de ses obligations vis-à-vis de toi, « يعني » Elle ne va pas rester focalisée sur ça. Elle va fermer aussi les yeux. Et elle va se rappeler les qualités de son mari. Le troisième point, ce troisième principe, c'est le principe de la patience et de l'endurance. Allah Azza wa Jalla dit « فَعَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا » Peut-être que vous allez avoir de l'aversion pour une chose, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala placera dedans beaucoup de bien, une abondance de bien. Donc dans nos relations de couple, on a besoin de la patience. C'est quelque chose de très important, car le mari idéal n'existe pas dans Dunya, il existe dans le paradis. Et l'épouse idéale, également, c'est dans le paradis. C'est cette même femme, c'est cette même épouse. C'est, si tous les deux entrent au paradis, bi'idhnillah, elle sera la femme idéale. Mais dans Dunya, on a tous nos défauts et nos manquements. Et on essaye de faire des efforts pour se corriger et se réformer. Mais on a besoin de patience. Car la personne, en général, n'arrive pas à corriger des défauts qu'elle a eus pendant des années, en quelques heures ou en quelques jours. Ça demande du temps et du travail du côté de l'individu et de la patience du côté de son entourage. Le quatrième principe, c'est le principe du bon comportement envers l'épouse, et du bon comportement de l'épouse envers l'époux, de se comporter convenablement, que ce soit dans les paroles, dans les actes. Et ainsi de suite. Comme Allah a dit, « وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » Comportez-vous convenablement envers vos épouses. Et c'est pour ça que Nabi alayhi salam, quand il a parlé du prétendant qui se présente en demandant une femme au mariage, qui demande à marier une femme, Nabi alayhi salam a dit « إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ » Si celui qui se présente, yani vous êtes satisfait de sa religion, mais il n'a pas dit seulement sa religion. Regardez, il a dit « et son comportement ». Je vous demande, est-ce que le comportement fait partie de la religion ou pas ? est-ce que le bon comportement fait partie de la religion ou pas? Si vous pouvez répondre sur Mixler. Est-ce que le bon comportement fait partie de la religion ou pas? La sœur, elle répond, elle dit oui. Naam, bien évidemment que le bon comportement fait partie de la religion. Même les gens les plus proches du paradis, dans le paradis du prophète, alayhi salatu wasalam, c'est ceux qui ont la meilleure éthique, le meilleur comportement. Donc, bien évidemment que le comportement, il fait partie de la religion. Lakin, la question qu'on doit se poser, pourquoi le Nabi, alayhi salatu wasalam, il mentionne la religion, ensuite il mentionne le bon comportement, malgré qu'il fait partie de la religion. Après avoir mentionné la généralité qui est la religion, il a mentionné un point précis de cette religion afin de souligner son importance. Car c'est très important pour la femme de vérifier le bon comportement du prétendant afin de l'accepter. Et qu'elle ne soit pas comme le grand nombre de sœurs naïves ou ignorantes qui vérifient en posant la question au prétendant lui-même, comment il est ou là comme. Faut pas être naïf à ce point-là. Un homme qui souhaite épouser une femme qui lui plaît, il va lui dire tout ce qu'elle veut entendre. Donc c'est une citation qui porte un sens très fort, qu'on dit au Maroc, on dit « Zouaj lila » Mais les gens aujourd'hui, on est à l'époque du fast-food, où on veut tout faire vite et rapidement. Il y en a, ils veulent se marier dès qu'il a l'idée en tête. Dans la semaine, il faut qu'il soit marié. C'est pas comme ça. Le mariage d'une nuit se prépare en un an, ils disent, dans une citation. Donc il faut qu'elle mène une vraie enquête. Il faut qu'elle mène une vraie enquête pour se renseigner sur la religion de cet homme, sur sa aqida, sur son manhaj, sur sa salat en groupe. C'est un homme, il faut qu'il fasse la salat obligatoirement dans la mosquée. Et s'il ne la fait pas dans la mosquée par rapport à certains salats, pourquoi il ne la fait pas? Est-ce que c'est une négligence ou là, il a des excuses valables? Donc si elle vérifie ces points, déjà, elle aura... Et est-ce qu'il apprend sa religion? Est-ce qu'il fait des efforts pour apprendre la langue arabe? Rien que ces éléments que je viens de mentionner de la religion lui donnent une idée très claire sur sa religion. Lakin, d'avoir ces éléments d'une source sûre, d'aller dans son quartier, de demander aux frères qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala de sa ville, qui vont dire la vérité. Et qui ne vont pas cacher des détails importants. Et après, le Nabi a mentionné le bon comportement, car le bon comportement est une chose très importante dans la vie de couple, surtout du côté du mari. Il y en a la femme, elle peut être amenée à faire des choses, à ne pas faire ce que le mari lui dit. Donc s'il n'a pas un bon comportement, s'il n'a pas de la patience, s'il n'a pas de l'indulgence, s'il n'a pas de la clémence, forcément, ça va se terminer par un divorce. Il faut savoir qu'on ne se marie pas pour divorcer. Le divorce peut arriver. Là, on se marie pour la vie. Et ça aussi, c'est des fléaux que je constate dans les sociétés occidentales. La facilité à se marier, et par conséquence, la facilité à divorcer. Dans nos pays arabes, le divorce est une catastrophe. Quand une femme divorce, c'est une catastrophe dans la famille. C'est pour ça qu'ils font très attention. à qui ils vont marier leur fille, et aussi, c'est pas parce qu'il a la religion qu'on va lui marier. Est-ce que cet homme est un homme capable de subvenir aux besoins de son épouse? Si c'est un feignant, un paresseux, on ne lui marie pas notre fille. Sauf si le père est aisé, il peut aider. Il peut aider cet homme parce qu'il est pieux, il apprend, ou il n'a pas le temps pour travailler, ou il a des choses comme ça. Ça, c'est un bien. Mais sinon, on ne donne pas une fille à un homme incapable de subvenir à ses besoins. Le mariage, ce n'est pas l'intimité, seulement. Le cinquième et le dernier point que je vais mentionner ici, c'est la réconciliation. De savoir que la réconciliation est demandée entre les époux. Et vous constatez que ces points ont été cités dans l'ordre. La réconciliation arrive vers la fin. Quand il y a des disputes, quand il y a des différends, quand les époux n'arrivent pas à se mettre d'accord, forcément il faut que un des deux, voire les deux, là qui n'ont minimum un des deux, il faut qu'ils cèdent un peu. Qu'ils cèdent sur certains de ses droits. Qu'ils essayent de trouver des compromis. Amma que chacun reste sur sa position et que personne ne cède, yani, on connaît la conséquence. C'est pour ça la réconciliation, as-sulh, c'est demandé dans le mariage et dès que la femme se marie, il faut qu'elle se prépare à toutes ces étapes et à tous ces points. Yani, parmi les grandes causes des disputes et des problèmes dans les couples, c'est le fait d'idéaliser le mariage. Surtout quand la sœur, elle se marie avec quelqu'un qui est étudiant, là, et après elle voit de lui des négligences, des points comme ça, et elle se dit, ou là il manque à certains de ses devoirs vis-à-vis d'elle, elle se dit, c'est pas possible qu'il a agi de cette manière par ignorance ou par oubli. Forcément, il a fait ça volontairement, en voulant le mal, parce que quelqu'un comme lui, c'est pas possible qu'il ignore. Non, c'est faux. Il peut ignorer, il peut oublier, il peut faiblir. C'est pour ça, on n'idéalise pas le mariage. La sœur, elle ne se marie pas avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou là, elle se marie avec Abu Bakr al-Siddiq. Elle se marie avec un frère comme elle. Donc, il faut qu'elle soit préparée à patienter. Adawa, la vraie vie de couple. C'est ça la réalité. Ammahad, les mariages qu'on s'imagine, comme ils disent, Faris l'Ahlam, ou le mari duquel elle rêve, ça c'est ce qu'on présente dans les films. Mais dans la réalité, c'est pas comme ça le mariage. Le mariage, il faut la patience, il faut le bon comportement, il faut la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut céder des fois sur certains de ses droits, il faut fermer les yeux sur certaines choses. Et c'est comme ça que continue la vie de couple. C'est pour ça que Allah, je le dis, « وَالصُّلْحُ خَيْرُ » La réconciliation est toujours meilleure. Donc, par rapport à notre livre, on s'était arrêté, yani, Cheikh Rahimallah, ou Hafidhahullah Ta'ala, Cheikh, alhamdoulilah, comme vous savez, il a été nommé Mufti d'Arabie Saoudite. Et ça, c'est une ni'ma immense pour Al-Sunnah Al-Jama'a. Donc, on s'était arrêté au point dans lequel Cheikh Hafidhahullah a commencé par énumérer certaines règles concernant la femme ayant ses menstruations. Et les mêmes règles concernent aussi la femme ayant ses élochies. Yani, c'est les mêmes règles. Je vais vous les citer d'une manière résumée, comme les a cités l'imam Ibn Jarir, rahimallah, il a même rapporté l'unanimité sur ce point. Il est interdit pour la femme indisposée, que ce soit à cause des menstrues ou des lochies, il est interdit pour elle de faire la salat. Il est interdit pour elle de jeûner. Il est interdit pour elle de faire tawaf autour de l'Kaaba. Il est interdit pour elle d'avoir une relation sexuelle, entre parenthèses, avec pénétration, pendant qu'elle est indisposée. Et il est interdit pour son mari de la divorcer pendant qu'elle est indisposée. Vous savez que ça s'appelle At-talaq al-bid'i. C'est parmi les catégories de l'innovation dans le divorce. Que le mari divorce sa femme pendant qu'elle est indisposée. Le mari qui est décidé à divorcer sa femme et qui voit que le divorce est le dernier recours, il doit attendre qu'elle devient pure et il la divorce pendant une période de pureté dans laquelle il n'a pas eu de relation sexuelle avec elle. Et vous constatez que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré cela pour des sagesses. Parmi elles, c'est que le mari qui a été mis en colère ou l'a des choses par son épouse et qui veut la divorcer, il va attendre qu'elle se purifie. Et donc là, ça laisse du temps. Et une fois qu'elle est purifiée, il peut être attiré par avoir une relation avec elle. Et donc ça va, bi'idnillah, favoriser qu'il lui pardonne et qu'il tourne la page et qu'il se donne une nouvelle chance. Allah subhanahu wa ta'ala veut pour nous qu'on reste mariés. Lakin, le divorce aussi est légiféré en dernier recours. Et il est obligatoire pour la femme indisposée, quand elle devient pure, il est obligatoire pour elle de faire le rusl, comme nous allons le voir. De faire le rusl, et Cheikh va le décrire d'une manière détaillée. De faire le rusl avant d'accomplir les adorations qui nécessitent d'être pure, comme la salat. Et aussi, il est obligatoire pour elle de rattraper le jeûne obligatoire, qu'elle n'a pas jeûné pendant qu'elle était indisposée. Et elle ne rattrape pas la salat. Et à ce sujet, sur ces points que j'ai mentionnés, tous, il y a unanimité des savants, et comme ça a été rapporté par l'imam Ibn Jarir At-Tabari. Donc dans les règles que Cheikh a mentionnées, on s'est rendu au point où il a parlé de le fait qu'elle reste, yani qu'elle passe, qu'elle traverse la mosquée. Yani, il a dit « وَيَجُوزُ لَهَا الْمُرُورُ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ لُبْثٍ » Il est autorisé pour la femme croyante, indisposée, de traverser la mosquée. Lakin, elle ne doit pas rester dans la mosquée. Elle ne doit pas s'installer dans la mosquée et s'asseoir dans la mosquée. Et si jamais elle est amenée à traverser la mosquée pour une raison ou pour une autre, ceci est autorisé. Mais elle ne reste pas dans la mosquée. Et il a cité comme dalil, hadith, Aïcha radiallahu anha, qalat, qala li, رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد قالت فقلت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك. Donc il a cité comme dalil hadith Aïcha رضي الله عنها notre mère qu'Allah la bénisse. Comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de lui passer un tissu qui était dans la mosquée. Vous savez que la maison de Aïcha radiallahu anha, comme les maisons de toutes les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étaient collées à la mosquée. Elles n'étaient pas dans la mosquée, mais elles étaient collées à la mosquée. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de lui passer ce tissu. Et elle lui a dit, je suis indisposée. Yani, comme si elle s'est excusée de ne pas pouvoir aller dans la mosquée pour le chercher, car elle est indisposée. Le Nabi sallam lui a dit inna haydataki laysat fi yadiki. Yani ceci ne concerne pas le fait d'être indisposé. Yani tes menstrues ne sont pas dans tes mains. Ça veut dire il n'y a pas de mal à ce qu'elle traverse la mosquée et qu'elle aille chercher ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait. Lakin, selon cet avis, par contre, elle ne reste pas dans la mosquée. Elle ne reste pas dans la mosquée, juste à la traverse. Et ce hadith a été rapporté par l'imam Muslim dans son authentique. Dans son authentique. طيب. Ensuite, il a dit: "Wala ba'sa an ta'ti al-ha'id bil adhkar ash-shar'iyyah min at-tahlil wat-takbir wat-tasbih wal-ad'iyah." Il a dit: il n'y a pas de mal à ce que la femme indisposée qu'elle fasse les invocations légiférées et de faire tahlil, de répéter la parole la ilaha illallah, et de faire takbir, de répéter la parole Allahu akbar, et de faire tasbih, de répéter la parole subhanallah, et les autres invocations. Il n'y a pas de mal en cela. Et aussi comme il a dit, wa an ta'tiya bil awrad ash-shar'iyyah al-mashru'a, et de faire les évocations légiférées, comme les invocations du matin et les invocations du soir, et ce qu'on dit avant de dormir et ce qu'on dit au réveil. Wala ba'sa an taqra fi kutub al-'ilm, il n'y a pas de mal non plus à ce qu'elle lise dans les livres de la science. Il n'y a pas de mal à ce qu'elle lise dans les livres de la science. كالتفسير والحديث والفقه, comme les livres de l'exégèse et les livres, l'explication du Coran, tafsir le Coran, comme tafsir l'imam Sa'di, tafsir l'imam Ibn Kathir, tafsir l'imam al-Baghawi, parmi les tafsir des savants salafis. Wal-hadithi, également les livres de l'hadith. Il n'y a pas de mal à ce qu'elle lise dans l'authentique de l'imam al-Bukhari ou dans l'authentique de l'imam Muslim et dans les livres de la jurisprudence. Également, ceci n'est pas défendu, n'est pas interdit pour elle. Taïb. Donc, bien évidemment, cet avis يعني, l'avis qui a été choisi par Cheikh, comme quoi la femme ne doit pas rester. Ahmad, le point, je viens de me rappeler qu'on l'a détaillé, donc c'est pas la peine qu'on revienne dessus. يعني, vous savez qu'il y a une divergence à ce sujet, et dans toutes les questions de divergence, le devoir du croyant, pour le croyant qui a une certaine clairvoyance, qui a étudié un minimum, essaye de lire les avis des deux savants et les preuves sur lesquelles ils se sont basés et de choisir ce qui lui semble le plus proche de la vérité. Et celui qui n'a pas cette capacité, il pose la question à un homme de science. Il suit son avis. Il suit son avis. طيب. Après, Cheikh Hafidhahullah est passé à un autre point très important. Il a dit fa'idatun fi hukm as-sufrati wal-kudra. Fa'idatun fi hukm as-sufrati wal-kudra. Donc il va parler de ce qu'on appelle as-sufra et de ce qu'on appelle Al-Qudra. Al-Qudra. On va voir, Cheikh, il va les définir il va les définir d'une manière explicite. Donc on va voir ce que c'est exactement. طيب il a dit فائدة في حكم الصفرة والكدرة. الصفرة شيء كالصديد يعلوه صفرة. Donc c'est quoi الصفرة؟ يعني bien évidemment tout ça c'est des liquides qui sortent de la partie intime de la femme. As-Sufra, il a dit, c'est comme une pue, elle est de couleur purulente avec prédominance du jaune. Ya'luhu Sufra. Donc, c'est une couleur purulente avec prédominance du jaune. Ça, c'est Sufra. والكدرة شيء كلون الماء الوسخ الكدر. Par contre, le kudra, c'est un liquide qui est de la couleur d'une eau sale et troublée. Le kudra, c'est un liquide dont la couleur se rapproche du noir. Donc, quand la femme a des pertes, quel est le jugement de ces pertes qui sont à Sufra et Kudra? Est-ce qu'elle les considère comme faisant partie de sa période de menstruation ou elle se considère comme pure et elle accomplit ses adorations? C'est de ça qu'il va parler ici. Il a dit à Sufra. Il a dit, فَإِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَرْأَةِ كُدْرَةٌ أَوْ صُفْرَةٌ فِي وَقْتِ عَادَتِهَا. Donc il va citer le premier cas. Si la femme a ses pertes, as-sufra et le kudra, pendant son cycle menstruel. Pendant son cycle menstruel. Alors, il a dit, فَإِنَّهَا تَعْتَبِرُهَا حَيْضًا. Elle va les considérer comme faisant partie de ses menstrues. Si ces pertes arrivent pendant le cycle menstruel, elles font partie alors des menstrues. Et elles se considèrent toujours indisposées. Ça ne va rien changer. Et ça, c'est l'avis des quatre écoles de jurisprudence. C'est l'avis des quatre écoles de jurisprudence. Taïb. Ensuite, il a dit يأخذان أحكامه السابقة وإن خرج من المرأة في غير وقت العادة. Par contre, si elle a ses pertes en dehors de son cycle menstruel, en dehors du cycle menstruel, en dehors de الدورة أو العادة الشهرية, فإنها لا تعتبرهما شيئا. Alors, dans ce cas-là, elle ne va pas les considérer comme des règles, mais elle va les considérer comme yani des pertes, comme des pertes qui ne nécessitent pas de faire le ghusl. Donc, elle se considère toujours comme étant pure. Donc, notez bien ça, Anna, les pertes, Sufra et le Kudra. On parle que de ces pertes. As-Sufra et le Kudra. Quand elles arrivent durant le cycle menstruel, elles font partie des menstrues. Et quand elles arrivent en dehors du cycle menstruel, une femme par exemple, qui a eu la fin de son cycle menstruel, et elle s'est lavée, et après 2 jours par exemple, elle a eu des pertes jaunâtres ou elle a eu des pertes de la couleur d'eau troublée. Celle-là, cette femme, elle ne va pas considérer ça comme des menstrues. Elle va se purifier normalement et faire ses ablutions et faire ses adorations. Et le dalil par rapport à ça, c'est hadith Atiya radiallahu anha. Hadith Atiya, sahabiya, al-jalila. Elle a dit « Kunna la na'uddu al-kudrata wa al-sufrata ba'da al-tuhri shay'a » Rawahu Abu Dawoud. Donc Ummu Atiya, qu'Allah l'agré, elle a dit « Nous ne considérions comme rien al-kudra et al-sufra après nous être purifiés. » Ça a été rapporté par l'imam Abu Dawoud. Et dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, il n'a pas mentionné le terme « après être purifié ». Et ce hadith, même si c'est la parole de Ummu Atiya, le fait d'attribuer un jugement à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la religion d'Allah, c'est qu'elle l'a pris sans aucun doute du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ce que signifie cette parole de Ummu Atiya, radiallahu anha, c'est que le kudra et le sufra, ces deux pertes, quand elles arrivent pendant les menstrues, elles font partie des menstrues. Et quand elles arrivent après, elles n'en tiennent pas compte. Et elles se considèrent toujours comme étant pures et purifiées. Et elle fait toutes ses adorations. Fa'idatun ukhra. Une deuxième faïda. Donc ça, c'est la première faïda qui concerne al-sufra et al-kudra. Faïdatun ukhra. Ma alladhi ta'rifu bihi al-mar'atu nihayata haydiha. Il faut savoir que ces sujets qui concernent les menstrues et les louchis des femmes et aussi les métroragies, ce sont des sujets d'une grande importance pour la femme. Et les maris doivent les apprendre pour aider leurs épouses à les comprendre. C'est sûr que la femme, elle est plus facilitée à comprendre ces sujets. Car quand elle entend ces choses-là, ça lui parle directement. Elle connaît ces phénomènes. Elle connaît ce que c'est le qassatul bayda. Elle connaît ce que c'est le jufuf. Et elle connaît ce que c'est le sufra et le kudra. Donc, ça lui parle directement. Et il est rapporté de l'imam Ahmed qu'il a passé plusieurs années à apprendre ces sujets pour les arriver à les maîtriser. Donc comment la femme, elle reconnaît la fin de ses menstruations. تعرف ذلك بانقطاع الدم وذلك بإحدى علامتين. Donc la femme, elle sait la fin de son cycle menstruel, elle sait la fin de sa période de menstruation avec l'arrêt du sang. Et cet arrêt a deux indices, deux signes qui indique l'arrêt du sang. Le premier indice, nuzulul qassatil bayda. Nuzulul qassatil bayda. Yani la sortie de ce liquide blanchâtre. Cette sécrétion blanchâtre qui sort de l'utérus de la femme après la fin définitive du sang, après l'arrêt définitif du sang. Et cette sécrétion blanchâtre, elle est comme un filament blanc, comme un fil blanc. Donc c'est un liquide, une sécrétion blanchâtre qui arrive pour marquer la fin des menstrues. Et elle est semblable à l'eau du plâtre. si vous mettez un peu de plâtre dans de l'eau, ça ressemble à ça. Et elle peut ne pas avoir la couleur blanche, car ça diffère d'une femme à une autre, d'où la complexité de ces phénomènes. Ce n'est pas yani, des choses que toutes les femmes vont avoir de la même manière. Lakin, d'une règle générale, ça c'est le premier indice qui indique la fin des menstrues. Donc la femme, elle ne se précipite pas. Elle reste indisposée jusqu'à voir ce premier signe. Et ce qu'il faut savoir, ce n'est pas toutes les femmes qui vont avoir ce premier signe. Il y a des femmes qui ont ce signe qui marque la fin de leur menstruation, mais pas toutes. C'est pour ça qu'il y a un deuxième signe. Et du moment qu'elle voit un de ces deux signes, il faut qu'elle sache qu'elle est devenue pure et qu'elle peut faire son rosl et commencer à faire ses adorations. Avant cela, elle attend. Donc le deuxième signe, c'est al-jufuf. Il a dit, Cheikh Hafidhahullah, il a dit, al-alamatu thaniya al-jufuf, huwa an tudkhila khirqatan aw qutnatan fi farjiha thumma tukhrijaha jaffatan laysa 'alayha shay' la min ad-dam wa la min al-qudrati aw as-sufra. Donc le deuxième signe, c'est le joufouf. C'est ce qu'on appelle l'assèchement de la vulve. C'est-à-dire, la femme va faire entrer un morceau de tissu ou du coton dans sa partie intime et ensuite elle va la sortir et elle va constater qu'elle est sortie sèche. Et il n'y aura rien sur cette ni ce morceau de tissu, ou là, ce coton qu'elle a utilisé, il ne va pas y avoir du sang, du tout. Ni de coudra, ni de sofra, ni de liquide jaunâtre, ni de liquide hada qu'on a dit qu'il ressemble à de l'eau troublée, sale. Al-coudra. Elle sortira sèche. Si elle sort sèche, ça c'est un signe qu'elle est devenue pure et qu'elle peut faire ses ablutions. Et au sujet de ces deux indices, il n'y a pas de divergence entre les quatre écoles de jurisprudence. Ils sont tous d'accord sur ces deux signes. Donc si elle voit un des deux signes, ce n'est pas une condition qu'elle voit les deux signes. Elle peut voir les deux signes, là qui ne c'est pas une condition. Elle voit un des deux, elle se considère comme pure et elle peut faire ses ablutions. Elle peut faire son lavage, le rosl. Et c'est pour ça, le point suivant qu'il a mentionné, hafidhahullah ta'ala, c'est « Ma yalzamu al-ha'id inda nihayati haydiha »« Ma yalzamu al-ha'ida inda nihayati haydiha » Qu'est-ce qu'il incombe à la femme à la fin de ses menstrues? Qu'est-ce qui lui incombe? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Il va répondre à ce point. Il a dit يَلْزَمُ الْحَائِضَ عِنْدَ نِهَايَةِ حَيْضِهَا أَنْ تَغْتَسِلَ. Donc la première chose qu'elle doit faire, c'est se laver. Mais ce n'est pas une obligation qu'elle se lave dans l'immédiat. C'est recommandé de retrouver l'état de pureté le plus rapidement possible. Là, ce n'est pas une obligation. Quand est-ce que ça devient obligatoire pour elle de faire le rosl? Quand elle doit accomplir une adoration qui nécessite le rosl. Par exemple, c'est l'heure du dhuhr. Elle doit faire le rosl et se laver afin de faire sa salade avant l'entrée de l'heure de l'asr. Sinon, elle aura sorti une salade de son temps sans raison valable. Et ça, c'est parmi les plus graves des péchés. Donc, il est obligatoire pour elle, elle doit faire le rosl, comme on a vu. Le rosl, c'est quoi? Cheikh va détailler ce que c'est le lavage rituel que doit faire la personne en état de grande impureté. Obligatoirement pour retrouver l'état de pureté. Que ce soit l'homme ou la femme ayant une janaba ou la femme dont les monstrues et les lochis se sont arrêtés. Taïb, il a dit, et ceci en utilisant l'eau avec l'intention de se purifier. Avec l'intention de se purifier, elle utilise l'eau et elle le verse sur l'ensemble de son corps. Elle englobe son corps avec l'eau. Et aussi, elle en met dans sa bouche et dans son nez. Obligatoirement. Sinon, son ghusl est invalide. Lakin ça, ça se fait tout simplement et naturellement. Si elle se met en dessous d'une douche, yani l'eau va aller partout. Il ne faut pas non plus rentrer dans l'ouest-ouest. Lakin, elle prend de l'eau, elle met dans la bouche et dans le nez également. Et on va voir la description de l'ghusl complète. Et elle doit faire cela, comme le Nabi Aïssa-Salam a dit. Il a dit, فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي. Donc le Nabi Aïssa-Salam a dit à Sahabiya, qu'il a interrogé au sujet de ce point, il lui a dit, lorsqu'arrivent tes règles, cesse de faire la salat. Et lorsqu'elle s'arrête, lave-toi et fais la salat, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Et ensuite, il va décrire al-ghusl. Il a dit, et la description de l'ghusl, Donc, tout d'abord, elle doit avoir l'intention. Un homme ou une femme qui rentre sous la douche et qui se lave pour se rafraîchir, s'il se rappelle qu'il était en état de grande impureté, il ne peut pas considérer ça comme un ghusl. Le ghusl nécessite l'intention. C'est même un de ses deux piliers, l'intention. Il faut qu'il se lave avec l'intention de le ghusl, ou bien l'intention de lever l'état d'impureté ou l'intention d'être pur afin de faire la salat, par exemple, ou n'importe quelle adoration qui nécessite l'état de pureté. Ensuite, il dit « Bismillah ». Il dit « Bismillah » avant de commencer le rosaire. Vous savez que « Bismillah », c'est légiféré de le dire avant les ablutions. Ce qu'on appelle les petites ablutions. Lakin, est-ce que c'est légiféré de le dire dans les grandes ablutions? Il y a des savants qui voient qu'on peut le dire, étant donné que les deux, ce sont des ablutions, petites ou grandes, on peut le dire. Lakin, notez bien que les dalils, par rapport à al-basmala, c'est uniquement pour les ablutions, al-wudu, et non pas al-ghusl. Donc il dit « Bismillah ». Thumma, tufidu, elle dit, bismillah, thumma tufidu l'ma'a ala jami'i jismiha. Ensuite, elle verse de l'eau sur l'ensemble de son corps. Wa tarwi usul sha'ri ra'siha. Et elle fait rentrer l'eau jusqu'aux racines de ses cheveux. Et notez bien ce que Cheikh va dire maintenant. Il a dit « Wala yelzamuha naqduhu » Et ce n'est pas obligatoire pour elle de défaire ses tresses. Si c'est une femme qui a déjà des tresses, selon l'avis de Cheikh, hafidhahullah, elle peut faire le ghusl pour se purifier de l'haïd et de l'nifas sans défaire ses tresses. Juste elle fait rentrer l'eau au niveau des racines. Il lui suffit de mouiller ses cheveux et de faire rentrer avec ses doigts l'eau jusqu'à arriver au niveau des racines. Ça, c'est un avis par rapport à cette question. Et il y a l'autre avis qui dit que quand c'est Rusl al-Janaba, effectivement, c'est pas obligatoire pour elle de défaire les tresses. Contrairement à Rusl al-Hayd, al-Nifas, elle doit obligatoirement défaire ses tresses. Et c'est ça la précaution. C'est de défaire ses tresses. Quand c'est le Hayd, al-Nifas. Et non pas quand c'est le Janaba. Et les savants ont cité une sagesse, une subtilité dans la différence entre les deux. Ils ont dit qu'à Rusl al-Janaba, yani bien évidemment, cet avis il est basé sur l'ahadith. Lakin, pourquoi cette différence entre les deux Rusl dans les textes? Et ils ont dit que la subtilité entre les deux, c'est que Rusl al-Janaba, c'est un Rusl qui arrive souvent. Dans certains cas, ça peut être tous les jours, tous les deux jours, tous les trois jours, et ainsi de suite. Contrairement à Rusl al-Hayd, ça arrive en général une fois dans le mois. Et Rusl al-Nifas, ça arrive encore moins. Peut-être une fois dans l'année, ou là tous les deux ans, ou là tous les trois ans. Et ça, c'est la sagesse derrière ça, wallahu a'lam. C'est pour ça, si elle fait le Rusl, de l'Hayd ou de l'Nifas, elle doit défaire ses tresses obligatoirement. Et si elle suit cet avis, comme quoi c'est pas obligatoire, alhamdulillah. Ensuite, il a dit وَإِنِ اسْتَعْمَلَتِ السِّدْرَ وَإِنِ اسْتَعْمَلَتِ السِّدْرَ أَوِ الْمَوَادَّ الْمُنَظِّفَةَ مَعَ الْمَاءِ فَحَسَنٌ. Et si elle combine avec l'eau, elle utilise avec l'eau السِّدْر يعني هاد la poudre ديال le lotus ou là les feuilles de lotus, يعني c'est l'équivalent à notre époque du savon. C'est l'équivalent du savon. Si elle utilise cidre, et cidre c'est encore meilleur, car c'est naturel, ça ne contient pas des produits chimiques. Et c'est ce qui a été utilisé à l'époque du prophète, yani comme savon, pour nettoyer avec l'eau. Donc il a dit, rahimahullah, hafidahullah, si elle utilise avec l'eau du lotus, ou d'autres produits de nettoyage, comme le savon, c'est une bonne chose. ويستحب أخذ قطنة فيها مسك أو غيره من الطيب تجعلها في فرجها بعد الاغتسال لأمره صلى الله عليه وسلم أسماء بذلك. Il est recommandé pour la femme, en plus de cela, il est recommandé pour elle d'utiliser un peu de coton imbibé de misc ou de tout autre parfum qui n'est pas yani mauvais pour sa santé et son hygiène, d'utiliser un coton imbibé d'un bon parfum et de l'introduire dans l'utérus après son rusl, son lavage rituel. Après son rusl, elle utilise le coton pour laisser une bonne odeur et pour enlever la mauvaise odeur qu'il y avait avant à cause des menstrues. Car le prophète l'a recommandé à Asma radiallahu anha, comme dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim et par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim. Il lui a recommandé, après le rusl, d'utiliser un coton imbibé de bons parfums. طيب. Ensuite, il a dit تنبيه مهم. Combien de temps? 40, 50. طيب, on va peut-être s'arrêter ici, inshallah ta'ala. Comme ça, on laissera un peu de temps. 5 minutes ou quelque chose comme ça, s'il y a des questions. Donc, on va s'arrêter sur ce point et continuer, inshallah, la semaine prochaine, sur ces sujets qui sont d'une grande importance pour les femmes et pour les hommes également qui veulent aider leurs épouses. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.